se porte vers l'avenir. Et nous savons qu'un jour les cieux seront déchirés, tu descendras, tu prendras les tiens. Et dans la perspective de ce retour, nous voulons te faire confiance aussi que, au milieu de nos fragilités, de nos inconséquences, ton esprit peut travailler nos cœurs, nous façonner à l'image de Jésus. Tu nous as déjà donné beaucoup ce matin. Donne-nous de pouvoir digérer et de pouvoir transmettre aussi ce que nous recevons de toi. Grandir pour réjouir ton cœur et puis pouvoir aussi d'autres simplement te rencontrer comme un sauveur personnel. Amen. Quand je pense à mon frère Kazdi, Saïd, je pense à lui quand je lis l'Épître aux Hébreux, parce qu'il aime bien l'Épître aux Hébreux. Et je remarque aussi quand il prie, je pense souvent à Hébreux chapitre 4, le souverain sacrificateur de bonjour à tous que je n'ai pas rencontré encore, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas ramené d'air frais de l'Alsace, le style de vie est un peu différent là-bas, mais je peux vous assurer que les cœurs sont les mêmes. Donc, je vous propose une lecture de l'Évangile selon Matthieu, pas tout l'Évangile. Nous avons vu un peu les béatitudes, comme disent nos amis anglophones, « beatitudes ». C'est des attitudes. Aujourd'hui, dans le monde, on est préoccupé par tout ce que nous faisons, par ce que les hommes font. Mais le Seigneur donne des valeurs absolues à l'opposé. Lui, il est préoccupé de ce que nous sommes à l'intérieur. Et comme à un moment donné, il a été dit, Dieu regarde au cœur, nous sommes frappés par l'extérieur. Alors on dit souvent, la vie ne fait pas le moine, mais ça y contribue quand même. Hein. Matthieu 5, verset 1. Et on va lire les cinq premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il s'y fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés, etc. » Il y en a plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une extension. Et si vous voulez lire quelques chapitres plus loin, Jésus va utiliser aussi, après le début du ministère, les malheurs à vous, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, à l'intérieur vous êtes des sépulcres blanchis. Alors Jésus est toujours doux et humble de cœur, et nous l'avons vu hier, la première caractéristique du disciple du Christ, c'est l'humilité. Il a besoin, il se rend compte qu'il a besoin de Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est que Matthieu nous parle, comme je l'ai dit hier, de heureux. La générosité de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux, même quand tout va mal. Alors le bonheur, comme Billy Graham l'a écrit, le secret du bonheur, c'est tout un livre, ça ne vient pas avec les valeurs qui sont les nôtres. Mais il dépend de la relation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. Comme le livre des psaumes qui s'ouvre par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il sera heureux dans son activité. » L'apôtre Jacques dira sous un autre angle: ne vous bornez pas seulement à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faits raisonnements, mais pratiquez la parole. Plongez vos regards dans la loi de la liberté. Mettez-vous à l'œuvre et vous serez heureux dans votre activité. Et dans le livre de l'Apocalypse, heureux ceux qui lisent le livre de la prophétie, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Oui, Dieu est un Dieu généreux. Dieu veut que je sois heureux. Alors parfois, on me demande, est-ce que tu es heureux? Quand je vois ma mère qui a 94 ans, elle me dit, bon sang, tu es heureux avec ta femme? Tu es heureux avec ta famille? Tu es heureux? Alors parfois, ça ne reflète pas, le bonheur ne se voit pas sur mon visage. Parce qu'il y a des moments, des nuages sombres, il y a des pluies qui nous tirent vers le bas. La loi de la pesanteur de la nature du cœur humain veut qu'on soit plutôt malheureux et triste chrétien, comme dit un jour quelqu'un, un chrétien triste est un triste chrétien. N'empêche que l'apôtre Paul avait à un moment donné tristesse sur tristesse, et quand il en parle, c'est là où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors qu'il est en prison, alors qu'il est un collaborateur, et alors c'est vrai, il y a des moments où il y a des jours, eh bien je ne peux pas dire, je me lève en chantant les Alléluia comme certains à 4h du matin, louant le Seigneur. Moi je suis comme un vieux diesel, hein, j'émerge doucement. Et d'autres, ils se lèvent le matin, ils sont déjà tout heureux. D'autres, ils le sont toute la journée. Et puis certains, on les voit tout le temps, et bien souvent, on a l'impression, ils ont tout le temps une tronche de 3 pieds de long, on se dit, mais franchement, la vie chrétienne, c'est pire qu'un enterrement. Et pourtant, quand Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, heureux serez-vous quand vous vous rendrez compte de votre misère, de votre conscience que vous avez besoin de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui fait le malheur de notre société, c'est qu'elle ne voit que ce qu'il y a sous le soleil, comme disait quelqu'un. Un monde sans Dieu, mais au-delà du soleil, le soleil de justice, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers, eh bien lui, il règne malgré les apparences et il comble de bien ceux qui reconnaissent leurs besoins. Est-ce que ce matin vous êtes dans le besoin? Est-ce que je ne dis pas vous poser la question, est-ce que vous vous sentez en forme? Alors comme disait quelqu'un, en forme de quoi? Heureux serez-vous, le royaume des cieux est à eux. Et nous l'avons vu hier, comment Asa, ce roi extraordinaire qui cherchait la face de Dieu, qui a eu des victoires dans la prière, etc. Et puis à la fin de sa vie, quand il a été interpellé par le prophète parce qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, il s'est mis en colère, il a pété les plombs, comme on dit, et il l'a fait mettre en prison, il a oppressé le peuple, et Dieu a permis la maladie dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de chercher celui qui guérit, il est allé chercher ailleurs. Et il est mort comme ça. C'est un avertissement pour nous autres qui prenons de l'âge. D'ailleurs, je me réjouis de ne pas être le seul, parce que vous aussi, tous les jours, vous prenez 24 heures, hein, comme moi. Mais chaque jour qui passe est un jour vers le grand dénouement, si notre cœur lui appartient. Si dans sa grâce, il nous a sauvés, nous lui avons ouvert notre cœur, nous l'avons reçu dans notre vie, nous nous délectons dans sa présence, dans les bons et les mauvais jours de la vie. Alors, heureux, dit Jésus, les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui prennent conscience qu'ils ont besoin d'un sauveur, besoin de quelqu'un qui les interpelle. Nous l'avons eu au verset 3, comme au verset 10, par deux fois, non pas la récompense ici, mais la conséquence, le royaume des cieux est à eux, c'est une réalité. Toutes les autres béatitudes sont au futur. Là, c'est le présent. Il est là. Le royaume des cieux est au milieu de la sphère où Dieu règne. Bon, Luc et Marc vont utiliser non pas le royaume des cieux, ils vont parler du royaume de Dieu, mais c'est la même chose. À la différence que Matthieu, il veut convaincre les Juifs et parler du nom de Dieu pour un Juif tellement crainte de Dieu qu'il préférait royaume des cieux. Et donc, c'est une première étape de certains disent pour les 8. Et puis, il dit « Heureux les affligés ». Car ils seront consolés. Alors si je pose la même question que hier soir, qu'est-ce que c'est qu'un affligé pour vous? Parce qu'il y en a beaucoup des affligés. Hein, vous allez au Mexique, sud du Mexique, vous allez dans les îles où il y a José et puis Irma, enfin après I, J, K, il y a certainement un K qui va venir un jour. Il y en a des affligés. Vous allez en Syrie, vous allez en Turquie, vous allez en Corée du Nord, vous allez en Afrique, au Congo à l'Est, ou dans n'importe quelle situation, et si nous ouvrons bien les yeux tout autour de nous, si vous nous asseyez quelque part, vous regardez des gens, vous voyez la tête, et vous dites, mince, ça ne respire pas la joie, ça ne respire pas le bonheur. Mais de quelle affliction s'agit-il aujourd'hui? Quand vous êtes désespéré de vous-même, que vous vous rendez compte de votre misère, mais ça vous afflige, qu'est-ce que vous allez faire? Affligé. Quand je pêche, quand je me rends compte que je ne suis pas à la norme de ce que l'autre attend de moi, parfois dans un couple, je ne suis pas à la norme peut-être de ce que ma femme attend, même après 40 ans. Peut-être c'est pire qu'il y a 40 ans, j'en sais rien. Peut-être d'un patron, peut-être d'un enfant, peut-être d'un voisin. Il a des attentes que je ne peux combler. Suis-je affligé quand je pêche? Quand je déshonore Dieu, quand j'attriste mon prochain par mon attitude, par mon égoïsme, par mon indifférence. Quand les yeux s'ouvrent sur la nature de notre cœur, quelque part, on ne peut pas se réjouir. On n'est que désespéré. Mais les désespérés sont des candidats pour la grâce. C'est pas ceux qui se portent bien qui vont aller voir le médecin, dit Jésus. Comme il le dira aux religieux de son temps, si vous étiez aveugle, ça fait longtemps que vos péchés s'est enlevé. Maintenant vous dites voir et votre péché demeure. Et c'est un grand danger de penser qu'on est arrivé. De savoir et de voir et de connaître. Je connais Dieu, c'est vrai? Oui. Quelque part, oui. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui. Celui qui a donné, qui a envoyé, est le Fils Jésus, mais d'un autre côté, est-ce que je le connais? Et quand Jésus dit à Philippe, ça fait 3 ans que tu es avec moi et tu ne me connais pas, je me rends compte qu'après 48 ans ou 47, ce n'est pas tout à fait, combien je le connais si peu. Et quand Jésus dit, heureux les affligés, moi je n'aime pas être affligé. Moi, je préfère respirer, vivre la vie, la fête. Vous savez, parfois, on fête des mariages, et j'étais à un mariage il n'y a pas longtemps de ça. Et alors, bon, il y a toutes sortes de fêtes, toutes sortes de choses qui se disent, toutes sortes de promesses qui se disent, ça ne dure pas bien longtemps d'ailleurs. Et puis, l'ecclésiaste, lui, nous dit, il vaut mieux entrer dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? Mais parce que dans une maison de deuil, les gens réfléchissent beaucoup plus et ils se disent, et si moi j'avais été dans la boîte là, où je pense à l'éternité? Et au festin, et rien n'est mauvais, Jésus était aussi à faire la fête au mariage de Cana. Il a même fait ce que d'autres, aucun chrétien ne ferait aujourd'hui. Surtout pas en Amérique. Hein. Je ne changerai pas l'eau en vin. Et c'était le meilleur. Et pourtant, une des premières paroles que Matthieu nous rapporte de Jésus à cette foule, ses disciples sont autour de lui, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux serez-vous quand vous avez pris conscience et quand vous êtes désespérés, ben vous vous tournez vers qui? Vers lui. Et Jésus dit, ils seront consolés. La consolation de Dieu dépasse toutes les consolations humaines. Vous savez, quand vous êtes parfois en enterrement et puis les gens ils prennent un air triste, etc. Moi, quand mon père est parti auprès du Seigneur, je ne pouvais pas être triste. Il avait 97 ans. Moi, j'ai vu un cadavre et les gens viennent nous dire, ben, moi, j'étais heureux. J'aimerais être là où il est. Je les rejoindrai un jour. Moi, ben, je suis triste d'être encore là. Mais peut-être l'apôtre Paul aussi, il a dit, ben, je plaide, c'est encore bien que je sois avec vous pour l'avancement de votre foi. Et parce que le Seigneur sait que je ne suis pas encore assez modelé, assez travaillé, assez humble, assez affligé, assez débonnaire, assez miséricordieux, parce qu'il veut me façonner à son image. Il veut me transformer à l'image de Christ. Donc tu restes encore un peu ici. Et il veut utiliser ma fragilité pour parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas encore. Avec joie, avec entrain. au milieu parfois des larmes, des situations. Avoir l'Église dans sa misère par moments, et je pense à cette prière, oui Seigneur, souffle, esprit, souffle des quatre vents sur ces ossements desséchés. Quand j'ai posé la question une fois à l'Institut biblique, est-ce qu'on veut prier le Saint-Esprit? On m'a dit, bon, esprit, souffle des quatre vents. Amen. Affligé, sens dans le cœur désespéré, doux et humble de cœur, les bonnets, ils seront consolés, oui, parce que le Seigneur lui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures, il console tous les affligés, nous était dit dans le prophète. Le prophète Isaïe dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, une année de grâce pour l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Heureux les affligés. J'ai lu dernièrement le prophète Isaïe. Alors moi, je ne sais pas si vous aimez lire les prophètes, c'est décapant, c'est stimulant. Si vous êtes déprimé, ben, lisez les prophètes Habacuc. Si vous pensez que le prophète Isaïe est trop long, 66 chapitres, ben lisez à partir du chapitre 40, 3 fois 9 chapitres, au milieu du chapitre 53, et vous voyez la gloire de Dieu être manifestée. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand Isaïe parle dans le chapitre 1 du peuple de Dieu qui est malade de la tête aux pieds, etc., et au chapitre 5, il dit malheur, 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 et arrive le chapitre 6. Et là, qu'est-ce qui se passe au chapitre 6? Il est profondément affligé. Parce que lui, son message peut-être a affligé ceux qui l'ont entendu, mais quand tu arrives au chapitre 6, alors là, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Vous rappelez ce qui était derrière cette citation de Calvin et d'autres, que c'est en face de la majesté de Dieu qu'on réalise notre profonde misère. Je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors je ne sais pas quelle est votre approche de ce livre. En général, les chapitres 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, c'est chronologique. Certains croient que ici nous avons la vocation du prophète Isaïe à son départ. Moi, je suis penchant de dire qu'il a déjà prophétisé, et j'ai des arguments pour le lever, mais vous savez, quand les commentateurs ne sont pas d'accord, chacun a ses arguments. Mais je crois qu'à un moment donné, quand il disait malheur, 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 il se rend compte, il fait une expérience plus profonde de la révélation de la majesté de Dieu pour sa propre vie, qui l'amène à réaliser lui-même la profondeur et l'horreur de son propre cœur. Vous lisez et étudiez et regardez de près le roi Ézéchias, un homme remarquable, j'en ai parlé un peu hier. Et cette mystérieuse phrase, Dieu l'abandonna pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Et je me rappelle M. Blocher de dire aussi, c'est un mystère. Bien sûr, il avait montré aux Babyloniens toutes les richesses, il avait les réponses à la prière, il était tout content, et puis son cœur s'est honoré, mais il s'est aussi humilié. Dieu l'abandonna pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Mais attendez, mes amis, on a lu le psaume 139 ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit dans le psaume? Je sais quand tu te lèves, quand tu te couches, je vais en haut tuer, je vais en bas tuer. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur d'Ézéchias? Et pourtant, Dieu l'abandonnait pour savoir ce qu'il y avait dans le cœur d'Ézéchias. Mais je crois qu'Ézéchias avait besoin de découvrir l'horreur de son propre cœur. Malgré toutes les victoires, malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et Isaïe, je crois, là aussi, a pénétré dans une dimension plus profonde de la relation avec Dieu. J'ai lu un livre, une femme que j'ai écouté prêcher, en 83, la fille de Billy Graham, Anne Lotz, sur la vie de prière de l'évangéliste. J'étais tout jeune en ce temps-là. Ça m'a impressionné. Et dernièrement, j'ai lu un de ses livres, où elle parle effectivement aussi de ce chapitre 6. Il y a un ministère au milieu des souffrances, des situations, des difficultés. Et quand Isaïe dit « Malheur à moi, mes lèvres sont impures. » Vous voulez savoir ce qu'est les lèvres? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Proverbes. On a parlé de la réprimandière, comme c'est le 10 septembre, hein, chapitre 10, je vais vous lire l'un ou l'autre. « La haine excite des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. » Ne les excuse pas, les couvrez, c'est autre chose. Hein. Celui qui se souvient de la correction, verset 17, prend le chemin de la vie. Celui qui oublie la réprimande s'égare. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne va faire suivre d'aucun chagrin. La crainte de l'Éternel augmente les jours, les années des méchants sont abrégées. Oui, Dieu connaît nos cœurs, il sait ce qu'il y a dedans, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dans votre cœur? Quand vous voyez des gens, vous sortez d'ici, vous voyez des gens drôlement habillés, ou plutôt à moitié habillés, d'un côté la bouteille et de l'autre côté la piqûre, vous dites « Oh là là, franchement, hein, c'est vraiment pauvre type. » Mais vous croyez, parce que vous êtes élevé dans une famille correcte, que vous êtes meilleur. J'ai eu le privilège d'avoir une famille correcte. Mes parents n'étaient pas au Seigneur quand il m'a sauvé, ils se sont convertis plus tard. Mais j'ai reconnaissance. Mais plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus je découvre, Bernard, il n'y a rien de bon dans ton cœur. Hein. Ne fais pas d'illusions. On dit, ben, pour venir au culte, matin, moi je suis venu pour être requinqué, moi je suis déprimé là, hein. Je vais ressortir d'ici. Oui, non, parce que passer par cette étape, est nécessaire pour faire l'expérience et la puissance de la consolation de Dieu au milieu même des souffrances de la vie. Parce que si vous lisez la suite des béatitudes, persécuté, calomnié, rejeté, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Il a un démon. D'où lui vient sa sagesse? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les autres disent non, il faut le liquider. Alors qu'il n'a fait que du bien. Serions-nous privilégiés de passer la vie sans rien? Alors que l'apôtre Paul dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera aussi persécuté. La question que moi je me pose, est-ce que je vis pieusement en Jésus-Christ? Ou est-ce que je traverse le fléau? Est-ce que j'ai le courage de prendre position? Quand tout le monde dit le contraire. Heureux serez-vous quand vous serez affligés, car vous serez consolés. Alors, je trouve ça formidable. Et Ézéchias était affligé, Isaïe était affligé, et ils ont été consolés. Et ce qui est formidable avec Isaïe, ben, Dieu. Il a touché, il n'a rien fait. Et puis d'un coup, il a entendu la voix de Dieu. Dieu a simplement posé une question. Qui enverrai-je? Ben moi, je suis volontaire, Seigneur. Parfois, on a du mal à trouver des volontaires pour faire le ménage dans une église. Ben, de mon temps, chacun qui était membre de l'église faisait partie du ménage, c'était vite vu. Alors, il ne faut pas laisser en toujours des volontaires. Avoir des volontaires pour s'occuper des enfants, si vous ne connaissez pas la vie de la personne qui s'en occupe, vaut mieux être prudent aujourd'hui. Et regardez un peu où en est sa relation avec Dieu. Mais, volontaire, me voici, envoie-moi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Comme nous l'avons vu aussi, Manassé. Et puis Moïse, lui c'était le débonnaire, l'homme le plus doux de la terre. Vous imaginez? Pourtant sa femme lui a dit à un moment donné, il retourne en Égypte, tu es pour moi un époux de sang. Règle le problème, circoncis ton fils avant d'aller confronter le pharaon. Quand vous devez conduire à peu près 2 millions au travers du désert, moi je me dis, un responsable de mission a dit un jour, l'équipe la plus difficile à diriger, c'est celle qui est sous mon toit. Parce que quand vous êtes une équipe d'évangélisation, quelque part, vous avez des règles, hein, on se lève à telle heure, on a culte à telle heure, on fait telle chose, etc. C'est comme à l'armée, hein, comme les Rangers. On fait, on obéit. Mais quand on est parfois dans l'église, chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, Moïse, quand il était confronté à ces situations, à ces problèmes, eh bien, l'écrivain nous dit, c'était l'homme le plus humble, le plus doux. Vous croyez qu'il l'a appris au départ, quand il a tué l'Égyptien? Ah non, 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 non. Il a appris pendant 40 ans à être quelqu'un en Égypte, comme disait quelqu'un. Et puis pendant les autres 40 années de sa vie, il a appris à n'être personne. Et les 40 dernières années de sa vie, il a appris à être quelqu'un avec Dieu. C'est difficile de descendre, hein? Parce que dans notre monde, il faut toujours monter. Gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Et nous voulons gagner plus et travailler moins. Nous voulons monter les échelons, même dans le monde évangélique, mais pas servir à un niveau qui n'est pas vu, ni connu, ni reconnu. Ah, c'est un danger, hein? Ne croyons surtout pas que nous sommes à l'égard de tout ça, ou à l'écart. Heureux les affligés. Je n'aime pas être affligé. Et je n'aime pas affliger quelqu'un. Mais je me rends compte, c'est une des pédagogies de Dieu, quand je vois ma misère, je dis, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu. Parce que là, ça me pousse dans la présence de Dieu. Mais si je crois que je peux me débrouiller là, tout seul, ben là, parfois je me retrouve à côté. Alors, heureux les affligés, ils seront consolés. Je vous laisserai méditer la suite. Cet après-midi, je ferai une petite conclusion. Mais quand ces caractéristiques se développent dans la vie du disciple de Jésus-Christ, il impacte les gens qui l'entourent, parce qu'il est impacté dans sa propre vie. Et si vous lisez ces trois chapitres, et que vous regardez la fin, quand Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Ça veut dire qu'il y a différentes manières d'enseigner. D'ailleurs, Jésus n'avait pas passé les diplômes à Jérusalem. Ce n'était pas un érudit qui avait passé le même canal que tous les autres. Il était le méprisé. Le charpentier, le fils du charpentier de la Galilée, là-haut, peut-il venir quelque chose de bon? Pourtant, quel homme! Quel homme! Le connaissez-vous, cet homme? Vous a-t-il rencontré? Vous rencontre-t-il dans le quotidien, quand vous ouvrez l'écriture, d'être en face de lui, dire, Seigneur, parle-moi, instruis-moi. Dispose mon cœur, secoue-moi, sauve-moi, transforme-moi. Alors non, ce n'est pas moi, moi, rien que moi. Mais glorifie ton nom. Manifeste ta gloire. Tu as dit, tu bâtis ton église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Et le Seigneur va nous émerveiller par sa manière d'agir. Et il dosera parfaitement dans chacune de nos vies ce dont nous avons besoin. Lui, il n'est pas à court de solutions à nos problèmes. Sommes-nous à l'écoute pour les recevoir, les entendre et obéir? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le chemin du mauvais. Mais il trouve son plaisir, il se délecte dans la loi de la liberté, la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit. Et ensuite, il peut se relever, il entend la voix de Dieu, purifiée par le sang de Christ. Mais il marche, confiant. Et celui qui lui fait confiance, il le mènera plus loin. Comme il l'a fait avec un Moïse, un Ésaïe, un Asa, un Manassé. Et je ne parlerai pas des Nebuchadnezzar ou des Belshazzar, où ils ont dû apprendre que le règne, l'autorité appartient à Dieu dans les cieux. Et Pharaon l'a aussi appris à ses dépens. Notre Dieu est formidable. Il est bon et sa bonté se manifeste tous les matins, même si moi, je n'en suis pas conscient. En venant ce matin à pied, je me dis, qu'est-ce que tu vas dire si quelqu'un va te dire, écoute, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Alors certains jeunes qui n'ont pas encore entendu ce type de voix d'une belle princesse ou d'un beau prince, ils attendent que ça. Je t'aime. Mais parfois on peut dire le mot et on reçoit en retour, prouve-le-moi. Oui, c'est facile de dire je t'aime. Hein? Et quand les hommes disent je t'aime, ils ont quelque chose par derrière dans la tête. Surtout quand à un certain âge. Hein? Prouve-le-moi. Comment vous allez le prouver? Alors vous allez passer votre temps à essayer de prouver à l'autre que vous l'aimez. Et j'ai pensé à ce verset. Vous croyez que Dieu vous aime? Est-ce que je le crois? Voilà, oui. Mais est-ce que je le sens? Est-ce que je le vis? Est-ce que j'en prends conscience? Est-ce que je me délecte? Est-ce que je me sens en sécurité dans cet âme? Et puis j'ai pensé à ce verset. Oui. Dieu prouve son amour. Comment? Lorsque nous étions encore des ennemis, Christ est mort pour nous. Moi, j'étais encore bien loin de lui. Et il a donné la démonstration de son amour pour toi et pour moi. Et il répand cet amour dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit, de la même lettre au chapitre 5, lettre aux Romains. Dieu a donné la démonstration. Et celui qui a dit heureux, les pauvres en esprit, s'est abaissé jusqu'à l'obéissance, la mort de la croix. Dieu l'a élevé. Il a été affligé. Affligé, pas par son propre péché, mais en voyant ce qu'il y avait tout autour et en prenant ma place. Il a été doux et humble de cœur, même quand il a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Et quand il a confronté les religieux qui avaient l'apparence sans puissance, qui lui est semblable. Et il nous pose la question aussi. Heureux, es-tu heureux? Es-tu affligé? Es-tu conscient de ta pauvreté? Et puis il te dit, et maintenant, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Seigneur, tu sais que je t'aime. Et si le Seigneur dit, prouve-le-moi, qu'est-ce que vous allez faire? M'aimes-tu? Ah oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Puis il vous pose la question deuxième fois. Jean, tu m'aimes? Tu poses la question une troisième fois. Tu me dis, tu penses à ce que tu aimes vraiment? Non, ben, oui, mais si je l'aimais, je l'aurais quand même la Bible, hein, puisque celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et puis, si je l'aimais vraiment, j'aurais eu le courage de parler de Jésus à mon pote. Puis si je l'aimais vraiment, peut-être que j'aurais un engagement un peu plus spécifique avec mes frères et sœurs. Commencez à réfléchir. Et puis il vous pose la quatrième fois, tu m'aimes vraiment, qu'est-ce que vous allez faire? Puis à un moment donné, il n'y a qu'une chose à faire. Vous vous couvrez du Seigneur, au fait, j'abandonne. Tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, tu sais que cet amour est tout parfait, mais prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Malheureusement. Il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Heureux sommes-nous. Mais parce que nous sommes affligés, en misère, lui nous console. Une consolation qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous allons, vous pouvez dire à Dieu ce que vous avez à lui dire avant un petit moment de prière, si vous pouvez s'exprimer courtement, faites-le. Et puis, pour être reconnaissant pour les équipes derrière. Seigneur, tu connais notre cœur à chacun et nous sommes vraiment profondément reconnaissants parce que tu es là. Et nous te percevons de différentes manières. Certains te voient grand, d'autres te voient autrement. Tu es grand et pourtant parfois nous te rapetissons à notre image. Je te louer pour ta parole, pour ces rencontres avec un Isaïe. Pour ce livre des Proverbes, pour cette royauté d'un Asa, d'un Josaphat, d'un Ézéchias, d'un Manassé, pour ce livre de l'Évangile que Matthieu nous a laissé sous l'inspiration de ton esprit, pour ces paroles par lesquelles il ouvre ce sermon heureux. Merci pour ta générosité, merci parce que tu ne veux pas qu'on vive une vie au rabais, au compte-gouttes. Merci parce que tu es le bon berger, le souverain berger, et tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors nous voulons puiser dans cette grâce inépuisable, par la foi nous emparer de tes promesses, saisir la réalité d'une vie avec toi, saisir le pardon en Christ, au milieu de nos fragilités, nous rappeler que la croix nous rappelle que tu as payé à la croix pour mes péchés, pour nos péchés. Mais tu es ressuscité, tu es le vivant, tu es ici et tu reviens. Alors notre attente est en toi. Nous savons que tu ne la déçois pas. Et nous te prions, pas juste individuellement, mais corporellement, nous puissions grandir dans l'adoration de ta personne, à nous édifier aussi les uns les autres. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Et puis, avoir le courage, malgré un monde de plus en plus incrédule, de confesser Jésus-Christ et de nous rappeler qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Merci de nous secourir et de ne pas nous avoir laissé des orphelins livrés à nos ressources. Merci pour ton esprit. Alors nous nous courbons devant toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et te remercions aussi pour toute cette liberté que nous avons encore dans ce pays. Et nous avons une pensée de ceux qui souffrent dans des situations dramatiques et difficiles aujourd'hui. Et que ces affligés d'une autre sorte puissent tourner leur regard vers le haut et te rencontrer. Merci Bernard. Beaucoup de choses à digérer.